moi j'ai une passion pour le tennis, mais que le tennis a beaucoup moins une passion pour moi.
J'ai des souvenirs d'enfance avec Alain Duhamel.
Je me rendais compte que je vivais mon premier grand événement historique.
Et il arrivait en Solex avec son casque.
La chienlit, hein, c'est comme ça que De Gaulle qualifiera cette période de mai 60.
Ah, il a rien compris, le général. Ouais. C'est quand même le mois le plus hallucinant et presque poétique de la Ve République.
Premier épisode, une éducation politique. C'est l'éditorialiste le plus écouté des Français et le plus craint des hommes politiques. Alain Duhamel a traversé la Ve République. Tout à la fois chroniqueur, portraitiste, intervieweur, distillant ses analyses dans la presse écrite, à la radio, à la télévision. 100 fois, il a interviewé des présidents et des premiers ministres. Il a été leur confident, souvent, parfois leur intime. L'homme à l'impeccable raie sur le côté est un visage familier des Français qui, après 60 ans de vie politique, a décidé de prendre sa retraite. Bonjour Alain Duhamel.
Bonjour.
Merci de nous accorder ce long entretien. Alain face à Duhamel, c'est donc le titre de notre podcast parce que, en quelque sorte, on va confronter l'homme à son œuvre. On va prendre notre temps pour revisiter ensemble 60 ans de vie politique du général de Gaulle à Emmanuel Macron. Et donc, 60 ans de votre vie, au fond, puisque les deux sont intimement liés. En tout cas, si on est ensemble aujourd'hui, Alain, c'est parce qu'il y a quelques mois, sur l'antenne de BFM TV, dans l'émission à laquelle vous participez quotidiennement, BFM Story, aux côtés d'Alain Marchal et d'Olivier Truchot, vous avez déclaré ceci.
C'est votre rentrée et c'est votre dernière saison après 60 années d'analyse politique.
Oui, c'est la dernière classe.
C'est la dernière rentrée.
Oui. Oui, oui.
Vous avez commencé en 1964 65.
Oui. Et pourquoi c'est la dernière? Parce que...
Il fallait que je divorce soit avec BFM, soit avec ma femme.
Alors, vous allez nous expliquer ces raisons. Mais pour revenir sur ce moment-là, quand vous annoncez que c'est fini, que vous tirez le rideau, que vous arrêtez, il y a de l'émotion?
Ça a été complètement improvisé. Peut-être un peu d'émotion, mais enfin, j'ai surtout une réaction de l'ordre du réflexe.
Et vous évoquez votre épouse qui joue un rôle déterminant dans cette décision d'arrêter. Hein.
Ça, il n'y a pas de doute.
Ouais, c'est elle qui vous a poussé?
Oh, elle a fait plus que de me pousser. Elle m'a menacé.
Menacé de vous quitter?
Menacé que tout se passe mal et tout se dérègle si je n'étais pas raisonnable, si à 85 ans, je n'acceptais pas de regagner mes pénates.
Oui, alors on va l'entendre, hein, France, puisque j'ai eu la chance de la rencontrer. Je vous le dis tout de suite, Alain, ça ne sera pas du tout agiographique, hein, ce rendez-vous, notre podcast.
Mieux.
Il
n'y
aura pas d'éloge prématuré. L'idée n'est pas du tout de vous ménager, mais vraiment d'aborder tous les sujets. Un mot quand même sur cette retraite qui s'annonce, là, on n'y est pas encore tout à fait, mais ça va ressembler à quoi votre vie sans les médias? Vous y avez réfléchi déjà? Vous avez anticipé?
Au début, je suppose que j'aurai droit à quelques invitations, notamment parce que je sors un livre au mois de janvier prochain. Puis, comme c'est la vie, elles se passeront. Et, écoutez...
On verra bien.
Je ferai face.
Oui, j'ai aucun doute là-dessus. Et j'ai une petite idée sur le fait que quand même, on vous retrouvera peut-être moins souvent, mais de temps en temps...
Sûrement moins souvent.
Moins souvent, ça c'est sûr. Allez, on va commencer par celle qu'on évoquait là. C'est France qui partage votre vie depuis...
1967.
Elle est professeure de musique agrégée. C'est... Écrivez-vous dans Journal d'un observateur votre exact contraire, aussi spontané que vous êtes retenu, aussi gai que vous êtes sérieux, France, votre épouse, votre plus grande chance depuis près de 60 ans et qui a bien voulu nous parler du grand homme qui, à un moment donné, dit-elle, a pris la grosse tête.
Le genre grosse tête télévision, c'est classique. Et effectivement, je ne sais plus à quel moment, j'ai un peu senti que... Non, mais ça n'allait pas, enfin, je veux dire, enfin, ça n'allait pas, c'était pas dramatique, mais enfin, télévision, nanana, le rendez-vous, etc. Donc, j'ai pas pu mettre le hold-là, c'est-à-dire, j'ai pas pu lui dire, supprime telle intervention, ça n'a pas d'intérêt, ou nanana, mais je me suis arrangée pour que ça se calme. C'est-à-dire, par exemple, on a eu moins de dîners, parce que on était vraiment invités, vraiment, très souvent à dîner, et ils ne refusaient jamais. Donc là, j'ai mis un peu le haut là. Mais ça s'est fait tout à fait en douceur et il a très bien compris que j'avais compris qu'il commençait à avoir la grosse tête.
Voilà, elle vous a fait redescendre un petit peu à un moment où, c'est vrai, tout vous réussit et vous êtes extrêmement occupé. On va revenir sur cette période-là. On a donc quelques heures devant nous pour revenir sur ce parcours qui vous a amené à rencontrer les plus grandes figures de la vie politique. Et quand je dis toutes les figures, c'est vraiment toutes, dont certaines que vous avez connues intimement. Beaucoup ne sont plus là pour témoigner, mais au fil de notre discussion, Alain, on va notamment croiser un ancien président de la République.
J'ai des souvenirs d'enfance avec Alain Duhamel, car j'étais jeune téléspectateur et il y avait une émission qui s'appelait « Armes égales ». Il y avait un jeune homme qui était au milieu avec un visage assez juvénile, précisément, qui arbitrait des affrontements qui n'étaient pas rien. Jacques Chirac face à Georges Marchais, la fameuse scène avec Maurice Clavel quittant le plateau. Et donc, c'était ma première rencontre, mais j'étais devant mon écran et lui était déjà à l'écran.
On retrouvera François Hollande au fil de cet entretien. On croisera également Ségolène Royal, qui, on le verra, peut-être féroce avec vous, mais qui partage aussi, dit-elle, beaucoup de points communs avec vous.
D'abord, il connaît très bien la vie politique française au long cours, bien évidemment. Donc ça, c'est un point commun que nous avons. C'est vrai qu'avec toute la nouvelle génération qui n'a pas beaucoup la mémoire des choses, c'est pas du tout un jugement que j'ai mis là, mais c'est vrai que c'est important. Vous savez qu'on comprend aussi la vie politique contemporaine et future en connaissant quand même l'histoire et en ayant vécu des événements. Donc ça, je crois que c'est quelque chose que l'on partage. Et la seconde chose, c'est qu'il est très rigoureux intellectuellement. Vous voyez, moi, j'aime bien les gens rigoureux qui font pas des esbroufs et qui travaillent. Voilà, comme moi, finalement.
Voilà, donc vous vous ressemblez beaucoup, finalement. On va revenir sur Ségolène Royal, sur ce livre, Les Prétendants, dans lequel vous l'avez oublié. Et voilà, on en parlera, on aura l'occasion
effacé.
De revenir. Effacé, on va le dire comme ça. On va croiser aussi, Alain, quelques mythes de la profession.
Ce que je trouvais extraordinaire, vous voyez, c'était son enthousiasme. Vous voyez, il arrivait en Solex avec son casque, on aurait dit. D'ailleurs, il prenait tous les sens interdits. Il a failli se faire tuer, je ne sais pas combien de fois. Et il arrivait et il avait une sorte, il jubilait de faire ce métier. Vous voyez, il repartait sur son Solex. Je savais qu'il allait rentrer chez lui, qu'il allait faire un papier sur Méhaignerie, sur Roca, sur ce que vous voulez, et que vraiment c'était pour lui une jouissance.
Et il est toujours comme ça.
Il est toujours comme ça.
Moi, le Solex, le Solex, ça c'est
fini. J'ai plus le droit.
C'est Catherine Ney, bien sûr, qui est pour vous bien plus qu'une collègue et qui parle très, très bien de vous avec beaucoup d'affection, mais avec cette petite pointe de causticité.
Bon, ça ne peut pas s'en passer.
Ça, c'est sûr. Allez, parler de vous, c'est aussi se replonger dans les archives de la télé, de la radio, juste ça, pour se mettre en bouche. On se souvient de ce générique, évidemment, l'heure de vérité qui a marqué les esprits. Et puis, quand on parle d'Alain Duhamel, comment ne pas parler de tennis également? Parce que si la politique est une passion, chez les Duhamel, la petite balle jaune est presque une religion. On en a parlé avec quelqu'un qui est un meilleur joueur que vous, on peut le dire, on ne dirait pas le contraire, qui a toujours été mieux classé, c'est Patrice, votre frère.
Alors il fait ça hyper sérieusement. Je veux dire, quand je joue avec lui, il va avoir 85 ans et j'en ai 5,5 de moins que lui le samedi matin. S'il y a quelqu'un qui passe à côté du court et qui parle, ça le gêne, vous voyez, c'est vraiment sérieux, quoi.
Le tennis, la passion tennis qui est de famille. Et ça continue d'ailleurs, parce que vous continuez à pratiquer le tennis.
Oui, mais il y a une grande différence entre mon frère et moi. C'est qu'il a une passion pour le tennis et que le tennis a une passion pour lui.
Ouais.
Alors que moi, j'ai une passion pour le tennis, mais que le tennis a beaucoup moins une passion pour moi.
Le tennis que vous avez beaucoup pratiqué avec Lionel Jospin, on a eu l'occasion d'en parler avec lui. On l'entendra également tout au long de cet entretien. Allez, retour sur vos débuts. Et quand je dis le début, c'est vraiment le tout début, c'est l'enfance, parce qu'elle est forcément fondatrice. Votre père est médecin, votre maman gère les affaires de la maison.
Mais a fait de bonnes études.
C'est une enfance protégée, préservée. On est au Perreux-sur-Marne. En quelques mots, quelques souvenirs de cette époque-là?
Oh, bah, il y avait un grand jardin,
ouais.
Ce qui, pour les enfants et les adolescents, est une bénédiction. Et puis, on était 5 enfants.
Ouais.
Et c'était assez vivant, quelquefois trop. Et c'était plutôt gai. On s'occupait beaucoup de nous, on était, il faut dire, très protégés. Bon, je crois que j'étais pas très commode, mm-hmm. parce que j'étais un peu individualiste. J'aime bien être dans mon coin en train de lire, en mm-hmm. réalité. Ce qui, quand on est 7 personnes, n'est pas toujours évident.
Alors justement, ça c'est intéressant ce que vous dites là, ça nous amène au témoignage de Patrice. On peut dire, Alain, que c'est par accident que vous embrassez ce métier de journaliste politique, au sens propre, un accident de voiture très grave qui manque de vous coûter la vie, qui vous cloue au lit et qui décide finalement de votre choix de carrière. Vous avez quel âge à l'époque ?
16 ans.
16 ans. Ans et Patrice, votre frère, s'en souvient.
S'il n'y avait pas eu cet accident, il aurait peut-être vraiment bien joué au tennis, peut-être été classé... Je ne pense pas qu'il aurait eu une autre vie professionnelle, mais enfin, c'est un accident qui lui a perdu. Il a été assez longtemps immobilisé. C'est un accident qui lui a donné l'occasion, non pas le goût parce qu'il l'avait avant, mais l'occasion de lire énormément. Il lisait à ce moment-là. Moi, je devais avoir 8 ou 9 ans à ce moment-là, mais il lisait d'abord beaucoup de journaux, notamment Le Monde.
Lecteur du Figaro à 6 ans, c'est ce qu'il écrit dans son livre Journal d'un observateur. Ça me paraît très précoce quand même.
Oui, non, mais ça se fait. Oui, c'était les titres du journal. Non, il lisait Le Monde parce que dans la maison que nous habitions au Perreux-sur-Marne, où c'est une grande maison avec un très grand jardin. C'était pas un parc, mais c'était un très grand jardin. Il y avait une c'est là où mon père médecin, notre père médecin exerçait. Donc il y avait une partie cabinet de notre père, salon d'attente, etc. Et puis une partie familiale. Et il y avait une grande entrée avec un coffre en bois. Et souvent, il lisait le Monde assis sur ce coffre pour être... je dirais à partir de 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Et moi, j'étais assez turbulent, et notre frère était également turbulent. Alors, mon frère, il était plus âgé que moi, donc lui, il n'était pas traité comme moi, mais moi, quand j'étais trop turbulent et que je l'empêchais de lire Le Monde, il m'enfermait dans le coffre et il s'asseyait dessus. Et
ça fait partie de la légende familiale. La légende, tout est vrai, hein.
Ah oui,
ça s'est vraiment passé comme ça. Patrice qui raconte aussi que dans ce grand jardin du Perreux, il avait l'habitude de reconstituer sur un grand champ les étapes du Tour de France, alors que vous reconstituiez les grandes batailles napoléoniennes.
Hein. Absolument.
C'est bien ça. Ça dit beaucoup de choses de vos tempéraments. Patrice qui a fait évidemment une très belle carrière de journaliste, de patron de chaîne, de médias. Et on l'entendra hein, très souvent tout au long de notre échange. Vous êtes donc un lecteur avide du Figaro dès la 6e, du Monde en 3e. Et on peut dire là que la politique vous percute alors que vous êtes encore jeune bachelier, me semble-t-il, place de la République, et vous assistez à un discours fondateur du général de Gaulle.
C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple.
Oui. Vous vous souvenez bien de ce moment?
Oui, alors ce n'est pas mon premier souvenir marquant. Mon premier souvenir marquant, c'est la campagne législative de Pierre Mendès-France en 1956, qui était mon grand homme, moi. Ce n'était mm-hmm. pas le général, c'était Pierre Mendès-France. Mais ça, oui, parce que je m'étais levé à 5h du matin pour être sûr d'être place de la République à un endroit où je pouvais voir quelque chose. J'y étais arrivé, il n'était pas 6h. Bah, évidemment, c'est un énorme souvenir, parce que je me rendais quand même bien compte... J'avais 18 ans, je me rendais compte que c'était une autre République qui commençait, dans des conditions complètement différentes, et en plus en pleine guerre d'Algérie. Je savais que c'était un événement historique, que je savais que j'avais devant moi un personnage déjà historique, et que son discours allait être historique, et ça a été en plus un très grand discours. En revanche, il y a eu Malraux qui a fait du Malraux, c'est-à-dire que c'était un peu boursouflé, si vous voulez.
Qu'est-ce que représente, pour quelqu'un de votre génération, la figure du général? Vous disiez, Mendès, c'était mon grand homme, c'était pas le général. Pour autant...
Pour moi, le général, c'était le grand homme de 40.
Ouais.
Quand il est revenu, entre-temps, c'était le RPF, et puis c'était la désillusion, puis c'était ses mémoires que j'avais lues quand même. Qui m'avaient énormément impressionné tout en m'ennuyant un petit peu. Mais beaucoup impressionné, plus impressionné qu'ennuyé. Mais là, je me rendais compte que je vivais mon premier grand événement historique. Et j'en étais tout. Enfin, c'est pour ça que je ne voulais pas le louper, d'ailleurs. Et les gens autour de moi étaient tétanisés. Alors, ceux qui étaient là, le public autour de moi, il y avait plein de monde. Hein. Le public autour de moi, c'était des hyper-gaullistes. C'est pas qu'ils jubilaient, c'est qu'ils étaient.
Exaltés.
Au-delà de ça. Au-delà de ça. Fanatiques.
Et à ce moment-là, vous dites je suis face à un moment d'histoire.
Et j'ai
envie d'en accompagner d'autres. Vous dites que l'idée d'être un commentateur, un analyste de la vie politique commence à faire son chemin ou pas alors ?
Alors, je me sentais un analyste, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'en famille, on discutait beaucoup politique, puisque mes parents n'étaient pas d'accord sur la politique. Heureusement, ils étaient d'accord sur le reste, mais pas sur la politique. Et donc, on avait toujours beaucoup discuté. Et moi, je prenais une place croissante compte tenu de mon âge. Et je voulais faire à l'origine des études d'historien. Et avec l'accident que j'ai eu, ça m'a fait perdre 2 ans. Donc, la politique, c'était la continuité de l'histoire par d'autres moyens.
Et puis l'occasion se présente de faire un stage au Monde. C'est là que vous faites réellement vos débuts.
L'occasion se présente parce que je la crée.
Alors,
c'est-à-dire que mes parents, comme dans les bonnes familles, voulaient que je fasse un stage pour que je ne perde pas toutes les vacances pour des histoires de famille, justement. J'étais censé faire ça dans une grande société pétrolière française. Ça me rasait absolument. Mmh. Et ils m'ont dit intelligemment, ne va pas à la Française des pétroles, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, ne va pas à la Française des pétroles, mais trouve autre chose. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jacques Fauvé, qui était le rédacteur en chef du Monde.
Directement, vous appelez Jacques Fauvé.
Ouais. Alors, à ma grande surprise, on me l'a passé.
Ouais.
Alors, 20 ans après, on ne me l'aurait plus passé parce que les journaux avaient changé de taille. Mais on me l'a passé. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, pourquoi j'en ai vraiment envie. Je pense que le nom a peut-être un peu joué, parce que si je m'étais appelé Alain, comme nom de famille, la conversation aurait peut-être été différente. C'est dit Duhamel, il doit bien être par rapport à Jacques Duhamel à l'époque. C'était pas vrai du tout, mais enfin, peu importe. Ça lui sonnait familier. Et il se trouve que le stagiaire qui devait commencer le lendemain, puisque ça devait être le 1er juillet, je pense, s'était cassé la jambe le jour même.
Les planètes s'alignent.
Et alors, plutôt que de reprendre la pile de demandes qu'il avait, il m'a dit, écoutez, si vous pouvez être là demain matin, on verra.
Et voilà, parfois, il ne faut pas un peu de hasard.
Et le deuxième hasard a été qu'il m'a pris en affection et qu'il s'est occupé de moi de façon extraordinaire et qu'il a fait vraiment le début de ce que je n'aime pas appeler une carrière de journaliste, mais une trajectoire.
Et votre premier papier, la première fois que la signature apparaît, c'est dans Le Monde.
Ah oui, bien sûr.
C'est pour parler de tennis.
Oui. C'était une récompense qu'il me donnait, parce qu'à l'époque, on ne payait pas les stages. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que je méritais d'être payé. Et pour me remercier, parce qu'il trouvait que je m'étais bien débrouillé, que j'étais motivé, il m'a dit, si ça vous fait plaisir, comme je sais que vous adorez le tennis, sa famille aussi adorait le tennis, hein, ça a aidé. Mais ça, on s'en est aperçu que quand on s'est connus.
Et puis, il y a les années Sciences Po, Alain, et... À ce moment-là, dans ces années-là, il y a Michel Cotta, il y a Christine Ockrent, qui ne sont pas forcément dans votre promo, mais qui sont en même temps...
Christine, si. Michel, non, parce qu'elle était déjà assistante de recherche à ce moment-là.
Et déjà la reine Christine, hein, dans les coulisses de l'Institut d'études politiques.
Ah oui.
Hein.
C'était la vedette absolue.
Ouais.
D'une part, elle était faite pour ça. Elle était major de promotion.
Ouais.
Bon, d'autre part, elle était absolument ravissante. Et on la regardait tous avec des yeux émerveillés. Bon, puis nous, on s'est bien entendus. Et quand on a fait, après Sciences Po, on a fait le troisième cycle qui venait d'être créé, troisième cycle de sciences politiques, qui durait 2 ans. Et on a fait équipe pour faire des travaux qu'on devait remettre, etc. Donc, on s'est bien connus.
Nous voici en 1965, l'élection présidentielle voit s'affronter De Gaulle, Mitterrand et Le Canuet. La télévision joue un rôle important, les sondages font leur début. Et vous êtes là, à ce moment-là, journaliste au Monde, aux premières loges, et vous êtes déjà passionné par ces... Vous êtes l'un des premiers experts des sondages.
J'étais chroniqueur.
Chroniqueur.
Et alors, c'est vrai que Le Monde ne faisait pas de papier sur les sondages. Et le service politique, en particulier le terrible chef du service politique qui s'appelait Raymond Barillon, qui était vraiment un personnage, avait très bien compris que si on publiait des sondages, les commentaires sur les sondages éclipseraient les commentaires des journalistes. Donc, il n'en voulait pas. On n'en parlait pas. Bon, et moi, j'ai dit à Fauvé, écoutez, il va y avoir une opération d'estimation. Il y a les sondages qui sont publiés, à l'époque notamment dans France Soir. Et il m'a permis, d'une part, de participer à l'opération d'estimation d'Europe et de l'IFOP. Mmh. Et là, j'y ai acquis un peu d'expertise, puisqu'ensuite, j'ai été conseiller à l'IFOP quelque temps. Et d'autre part, j'ai pu écrire mes premiers papiers sérieux, parce qu'avant 25, entre 20 ans et 20 ans, et 25, je publiais déjà des papiers dans Le Monde, mais bon, c'était des chroniques, souvent sur des livres politiques ou des choses comme ça. Disons que c'était des débuts. Et là, j'ai vraiment pu faire des papiers, alors de fond, sur la sociologie des électorats, et puis participer à cette opération, qui était une première. Hein. C'est la première fois qu'on faisait des estimations, et Absolument. C'est la première fois que dans Le Monde, on utilisait vraiment des sondages comme matériaux d'analyse.
Et c'est à cette période-là qu'Alain Perfit, le biographe du général et redoutable ministre de l'Information, vous convoque, vous reçoit et vous fait la leçon.
Oui, absolument. Alors, c'était un personnage, Alain Perfit. C'était aussi un grand écrivain. Mais c'était un ministre terrible, inflexible. Puis c'était...
Ministre de l'Information.
Oui, et puis c'était l'homme le plus lié au général. Enfin, bref. Et il me convoque et me dit ce que vous faites. C'est vraiment intéressant. Je vous félicite. Mais faites attention. Parce que aussi, ça vous fait prendre une responsabilité particulière. Vous comprenez, vous parlez des sondages. D'ordinaire, on ne fait pas des analyses de ce genre dans les journaux. Bon, maintenant, tout le monde en fait, évidemment. Mais ça a de l'influence. Vous savez, l'influence, ça doit se mériter, mais surtout à votre âge, je me rappelle, ça doit se piloter. Je serais content de vous revoir et peut-être que vous aurez tenu compte de ce que je vous ai dit.
Oui. Et que c'était quoi, alors, une forme de, de mise en garde ?
Une mise en garde, oui.
Une mise en garde, ouais, ouais. Ouais. Pas une menace, mais... Et puis, à cette époque-là, vous collaborez aussi à l'Express, où vous croisez une jeune femme qui garde de vous un souvenir très précis, hein, notamment sur le moment de votre rencontre. C'est Catherine Ney. À l'époque, elle est stagiaire à l'Express.
C'était en 67. C'était 66-67. C'était avant les législatives. Enfin bref, j'avais fait ce stage-là. Et Alain Duhamel était reçu par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise comme un grand spécialiste de l'élection électorale, parce qu'il écrivait des papiers dans Le Monde, il était déjà un spécialiste. Et donc j'avais vu, il était venu et on l'écoutait, et la première chose que j'ai faite pour lui, je lui ai apporté un café. Voilà, avec très cérémonieusement, quand on porte un café à un grand maître. Et, ça, et d'ailleurs, c'était un genre de rapport qu'il avait plutôt... jugé normal et à refaire. Enfin, voilà.
Vous vous souvenez de ce moment ?
Oui, je me rappelle très bien. Bon, il faut dire que Catherine était déjà assez impertinente et ravissante. Ouais. Bon, et que donc, son arrivée avec un café dans le bureau dans lequel j'étais, ça m'a produit un certain effet, il faut dire ce qui est.
Catherine Ney, que vous impressionnez beaucoup à l'époque ?
Il m'impressionnait par sa science, parce que c'était là vraiment la matière électorale, était quelque chose que j'ignorais complètement, qui m'intéressait moyennement, je dois dire, parce que moi, je m'intéressais plus aux personnages, enfin voilà, et puis je commençais, quoi, j'avais pas d'idée. Donc, lui, il avait une telle science, et voir Jean-Jacques Servan-Schreiber qui l'écoutait, et Jean-Jacques, c'était pas le genre à... Vous voyez, il prenait pas... tout le monde n'était pas pour lui un expert. Or, Alain en était un pour lui. Donc, mais tout de suite, je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un que j'ai toujours perçu comme une sorte de gourou.
Un gourou, quand même, c'est une grosse responsabilité, ça.
Non, mais il faut se rendre compte qu'à cette époque, dans la façon de traiter la politique, tout était nouveau. C'est le moment où la télévision politique s'éveille, c'est le moment où les sondages prennent leur place, c'est le moment où les types de rapports politiques, où la Ve République s'est installée en créant complètement autre chose que les décennies précédentes. Donc on était vraiment en pleine période de nouveauté, même d'expérimentation. Et des choses qui étaient en fait, qui s'ouvraient, qui étaient presque facile si on se donnait du mal, ouais. Et qui maintenant demanderait des efforts, du temps. Bon, ouais. Là, à l'époque, non. Ça allait à toute vitesse.
Nous voilà en 1967, année décisive, doublement décisive, puisqu'il y a votre rencontre avec Mendès France et votre mariage avec France. On va s'arrêter sur la politique, sur la personnalité de Mendès France, dont vous disiez que c'était votre homme politique. Il faut rappeler qui il était et ce qu'il représentait à l'époque pour la gauche.
Disons que Pierre Mendès France, c'était le seul homme politique de gauche qui inspirait vraiment du respect à ses adversaires, et le seul homme politique peut-être tout court, que le général de Gaulle regardait comme quelqu'un d'honorable, malgré leurs oppositions. Et c'était un personnage, d'abord, d'un courage incroyable, toute sa vie, dans tous les domaines, mais vraiment incroyable. Et d'autre part, il avait, je l'ai vu, je ne sais pas, peut-être 100 fois comme je vous vois, à la même distance. Il avait une présence et une autorité naturelle. Et en plus, c'est le contraire de Jean-Jacques Servan-Schreiber pour ça, sans la moindre mise en scène, il était ce qu'il était. Et il s'imposait. Et avec lui, j'ai beaucoup de souvenirs, chez lui, chez moi, en province.
À cette période-là, juste avant 68, vous commencez à le voir.
Et pendant 68.
Pendant 68, on va y venir, bon. Justement. Arrive justement ce joli mois de mai 68, qui constitue pour vous une sorte d'apprentissage accéléré de la politique, parce qu'à l'époque, vous avez 28 ans. On va écouter, une petite évocation de mai 68.
Unis pour protester contre la fermeture de Nanterre et la comparution de 8 Deller devant le conseil de discipline, manifeste. 17h30, bagarre sur le boulevard Saint-Michel. L'affrontement est très violent et dure jusqu'à 23h.
Comment vous vivez, vous qui êtes un calme, un modéré, cette période d'intense exaltation, de violence aussi? Comment vous la traversez, cette période-là?
Je ne suis pas un calme, je suis quelqu'un qui se contrôle. C'est tout à fait autre chose.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Et ben, je la vis avec passion, parce que tout était tellement différent, tellement nouveau. C'est quand même le mois le plus hallucinant et presque poétique de la Ve République. Toutes les hiérarchies volaient en éclats, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire que les cadres du privé, qui en général font attention, apostrophaient leur patron et pensaient qu'on a inventé une nouvelle économie. Les jeunes vicaires se permettaient de dire aux évêques que vraiment il fallait renouveler tout ça. Enfin, c'était général dans la société. C'était incroyable. Et avec un retournement global. C'est-à-dire, bon, une période d'aventure, d'imagination, de folie aussi. Il faut dire ce qui est. Le nombre de bêtises qui ont pu être dites pendant cette période, de part et d'autre, mais
avec
surtout...
Avec un certain Cohn-Bendit qui...
Par exemple. Enfin, la manœuvre. On ne peut pas dire la manœuvre en 68. Il est devenu le symbole.
Une des figures, en
le
tout cas.
Le symbole. Et puis le plus sympathique dans la bande. Et en même temps, très vite, l'inversion totale des sentiments des Français. Au début, les Français étaient tous pour. Trois semaines après, ils étaient tous contre. Ça a été inouï. Enfin, c'est les seules grandes grèves dans le secteur privé depuis la libération. Enfin, tout était différent. Et moi, j'ai eu la chance de vivre 68 avec Pierre Mendès France et ensuite d'écrire le premier livre sur mai 68 avec Raymond Aron. En enchaînant, semaine après semaine. Et avec Pierre Mendès France...
Vous êtes son conseiller de
l'ombre. Non, on était... Et il avait voulu... passer une demi-journée par semaine avec quatre jeunes gens de l'époque. Il y en a un qui est devenu ambassadeur, il y en a une qui est devenue rectrice de l'académie, etc., par la suite. Parce qu'ils voulaient des points de vue de gens jeunes et, a priori, bon, qu'ils connaissaient un petit peu quand même, autrement ils ne les auraient pas recrutés comme ça, a priori de sensibilités différentes. Bon, et puis on a eu quand même une très grande discussion avant Charletti.
Et vous êtes le modéré,
Moi, je suis ce que je suis, Bon, et il y en a qui étaient exaltés, qui disaient « faut y aller, vous allez faire le discours, tout va changer, la Nouvelle République va surgir ». Et moi, j'ai dit « il faut y aller, parce que vous êtes attendus là-bas, mais il faut y aller pour les calmer ».
Il y est allé, à
Charletti. Et pour les calmer, je lui ai dit « mais il ne faut surtout pas parler ». Si vous parlez, vous êtes emporté. Vous devenez le leader de fait. Tout le monde vous suit, mais ne vous suit pas là où vous voulez aller. On est en 68. On n'est pas en 48, 1848, ou en 1871. Ils iront où ils voudront, etc. Et je lui ai dit, ne parlez pas, soyez là. Soyez le symbole de ce qu'il y a dans ce mouvement, un homme d'État au moins, mais silence.
Et il vous écoute.
Et, bah oui, alors, je ne suis pas en train...
Il ne parle pas.
Alors, voilà, je suis pas en train de vous dire que c'est moi qui l'ai décidé. Mais en tout cas, il a fait ce que je souhaitais. Ça, c'est autre chose.
La chienlit, c'est comme ça que de Gaulle qualifiera cette période de mai 68.
Ah, il n'a rien compris, le général.
Ouais.
Alors là, vraiment, pendant tout mai 68, il n'a rien compris.
Et puis, finalement, de Gaulle triomphe au législatif fin juin, tout rentre dans l'ordre. Mais est-ce que vous diriez que, finalement, après 68, la France n'est plus tout à fait la même et ne sera plus jamais la même?
C'est évident. D'abord, tout ce qui est hiérarchie, étiquette, etc., tout ça est complètement bouleversé. Les mœurs aussi. Enfin, les mœurs d'abord. De ce point de vue, il y a un avant et un après mai 68.
La révolution sexuelle.
Oui, le sexuel, puis dans tout le monde s'est mis à fumer. Enfin, pas moi en l'occurrence, mais enfin, n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Il est devenu évident que
Vous n'avez jamais testé la marijuana.
Si on voulait... Moi, j'aime me contrôler. Alors, pas du tout ce qu'il me faut. Mais tout doit être nouveau, tout doit être différent, et tout doit être un peu provocateur aussi.
Et dans votre cheminement idéologique, est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, vous vous découvrez plutôt conservateur ?
Non, pas conservateur, mais modéré. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé, alors certains penseront que je n'y suis jamais arrivé, mais j'ai toujours essayé de comprendre ce qui se passait. Et pour comprendre ce qui se passait, il faut le regarder avec l'esprit suffisamment ouvert, d'observer de près, et puis de me faire ma propre idée. Bon, alors ma propre idée, je le confesse, n'est ni révolutionnaire, ni contre-révolutionnaire.
Ça, on avait remarqué. Bon, vous voilà responsable. Allez, on avance. Vous voilà responsable d'une collection chez Fayard. À l'époque, vous le disiez, il y a ce livre sur mai 68, oui, avec l'une des grandes, le plus grand intellectuel de l'époque, qui est Raymond Aron.
Et le plus solitaire. Et le plus vilipendé, et le plus respecté. Ouais. Pas par les mêmes.
Là, on est en 69, hein, 69, 70, c'est
non,
ça
alors, le livre Aron, c'est 68, ouais, et 69, c'est le livre que je fais avec Mitterrand.
Avec Mitterrand.
Alors là, c'est autre chose.
Et que vous avez du mal à accoucher. Hein. C'est un long travail. Autant avec Aron, ça se passe très vite.
Oui, avec Aron, c'est pas compliqué. On a eu 5 séances de travail. Ouais. Avec Mitterrand, une bonne cinquantaine.
Bon,
Aron, en une heure à chaque fois. Avec Mitterrand, en 3 ou 4 heures à chaque fois. Aron écrivait comme il parlait comme il écrivait, je lui posais une question, il répondait, voilà, bon, c'était limpide, assez autoritaire, mais très très intelligent. Mitterrand, c'était tellement plus subtil, contradictoire, avec des restrictions, et puis des aveux, et puis des mensonges.
Ouais. Bon, enfin, n'empêche que...
Mais ce livre, il s'était complètement fourvoyé en mai 68. Fourvoyé, c'est-à-dire qu'en gros, il avait demandé le pouvoir et le pouvoir lui était passé sous le nez,
ouais,
avec perte et fracas.
Ouais.
Et c'est ce livre qui, à la fois, l'a relancé politiquement, un petit peu respectabilisé, et qui surtout, c'est le livre où il s'est dit, où il a dit « je suis socialiste ». Bon, j'ai toujours pensé qu'il ne l'était pas, évidemment.
Et on
qu'il
va revenir, ne on va pas revenir devenir. Sur Mitterrand, et d'ailleurs vous êtes déjà proche de lui à l'époque, et puis ça va se confirmer dans le temps, et vous allez devenir, notamment pendant ces deux septennats, très très proche de lui.
Oui, mais comme interlocuteur et pas comme disciple.
Absolument. 17 février 1970, Alain, à armes égales, commence la grande aventure de la télévision. Voilà, un générique tout en retenue.
Ainsi parlait Zarathoustra.
De Richard Strauss. Bon, et avec des duels qui feront date, bien sûr, comme celui qui oppose Marchais et Chirac.
Oui,
mais
qui, pour la première fois, dans un débat à la télévision, chacun d'entre eux. Et ouais, pour la première fois, donc par principe, l'un en face de l'autre.
Mais ce qui est resté dans les mémoires, hein, c'est, j'allais dire, cette punchline, cette sortie tonitruante de Maurice Clavel. On écoute et on explique après.
Je viens de prendre la décision suivante. Je ne saurais prendre part à un débat qui commence sous le régime de la censure. Quant au peuple français, auquel je viens très modestement de lancer un appel au soulèvement de la vie contre ces espèces de morts que sont la censure et autres fascismes, j'ose, non moins modestement, lui donner rendez-vous pour bientôt, dans la liberté, pour la liberté. Messieurs les censeurs, bonsoir.
Et là, on le voit quitter la scène pour aller saluer le public. Il avait préparé son coup. Il faut rappeler qui était Maurice Clavel. Il faut rappeler qu'il était face à Jean Royer, à l'époque, oui, maire de Tours.
Oui, et surtout
qu'est-ce qui se passe ce soir
et
qu'est-ce qu'il reproche, là? Qu'est-ce qu'il vous reproche puisque vous êtes...
Alors, d'abord, il y a un mensonge éhonté qui est dit « Je viens de prendre à l'instant la décision de... » Rien du tout. Il est arrivé avec son papier qu'il connaissait par cœur. C'était un personnage flamboyant, qui se disait gaulliste de gauche, qui était surtout différent de tout le monde, qui avait une verve incroyable,
qui écrivait chroniqueur
au Nouvel Obs, exactement, ouais, mais ses chroniques étaient vraiment attendues, qui était en même temps un comédien, qui était un metteur en scène de théâtre, très médiocre, alors que c'était un écrivain, un, intéressant. Non, c'était surtout un très bon chroniqueur. Il faut dire ce qui est, qui était quelqu'un de tout à fait démesuré tout le temps, d'ailleurs, ça s'entend. Bon, et dans cette émission, comme dans toutes les émissions qu'on faisait à Armes Égales, on donnait les moyens à chaque invité de faire et de superviser un film d'un quart d'heure. Et dans ce film, il disait de Pompidou, qui était à l'époque le président de la République, il avait dit « il a de l'aversion », c'était le mot pour la résistance, ce qui était faux. On peut dire qu'il n'avait pas pris des risques pendant la résistance, ça c'était vrai, mais on ne peut pas dire qu'il avait de l'aversion. Bon, ça a immédiatement fait... tout ce qu'on faisait à cette époque à l'ORTF était connu dans la seconde. Donc, le film en train de se tourner, on nous a dit ben, « on ne peut pas laisser passer ça », etc. Et moi, j'ai été voir... c'est moi qui ai eu la corvée. J'ai été voir Clavel, donc je lui ai dit à l'avance « écoutez, ce mot, ça n'est pas possible. Si vous êtes d'accord... vous passez votre film, qui d'ailleurs était un très beau film d'un quart d'heure, mais très beau, il s'en était occupé lui-même. Et après, on s'explique devant les gens.
Ouais.
Et il m'a dit, je verrai ce que je ferai, de toute façon, je ne vous dirai rien. Ben, je lui ai dit, bah, écoutez, je vous demande pas, je vous dis ce que je vous propose. Vous le ferez, vous ne le ferez pas.
Ouais.
Bon, et il a fait son numéro, très beau texte, qui, comme vous pouvez le voir, n'a pas du tout correspondu à la suite de ce qu'il espérait, puisque lui, c'était le soulèvement de la vie, et en fait, il n'y a pas eu de soulèvement du tout.
En tout cas, il pose quand même une question, c'est celle de la maîtrise de l'information, de la censure. On parlait de perfit.
Il pose une question très simple, qui est que sous le gaullisme historique, c'est-à-dire le général et Pompidou, l'information télévisée n'était pas libre.
Ouais.
Et que nous, avec Armes Égales, on avait... Et grâce à quelqu'un qui, pour moi, est le plus important dans ma vie à la télévision, c'est-à-dire Pierre Desgroupes, donc qui dirigeait l'unité en question, protégé par Jacques Chaban-Delmas contre les gaullistes les plus conservateurs. Bon, c'est lui qui nous a donné notre chance et on est arrivé à avoir un petit coin dans lequel, par principe...
Un îlot de liberté.
Ben oui.
Mais
et qui était regardé comme tel, parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait deux chaînes seulement, et c'était regardé par je ne sais pas combien de millions de Français, mais c'était hallucinant par rapport à aujourd'hui.
Mais sur ce contrôle de l'information, est-ce que vous diriez qu'à l'époque, vous faites votre métier déjà de façon libre ? Est-ce que les papiers sont soumis avant lecture,
alors, à l'époque, je fais cette émission avec Michel Bassi. On est hyper protégé par des groupes qui en a fait son émission. Et qui nous a donné Barrère, qui était son grand ami pour la réalisation. Pour la réalisation. On a été certainement une nouveauté et un coin de liberté, oui, incontestablement. Dire que tout était parfait, non. Dire qu'il n'y avait pas d'histoire, si, il y en avait. Moi, lui-même m'a arrivé de polémiquer avec un autre ministre de l'Information par voie de dépêche à l'AFP. Quand on a invité Krivine Trotskiste à la télévision française pour 2 heures, le ciel leur est tombé sur la tête. C'est une émission qui à l'époque, a marqué. Bon, tout n'était pas tout le temps parfait. Il fallait se bagarrer. On était aidés par des groupes. On faisait ce qu'on pouvait. Et dès que Desgroupes est parti, l'émission pratiquement, elle a continué un peu. Mais ensuite, on nous a toujours redonné des émissions, mais qui n'avaient plus rien à voir.
Et puis, vous êtes un peu des défricheurs à l'époque, parce que tout est à inventer à la télévision.
Ah ben oui, ça. Et, alors, on a été aidés par Desgroupes et Barrère. Ça tranchait. Puis je répète, il n'y avait pas 36 émissions politiques à l'époque. Il y en avait deux. Il y en avait une sur la 1, une sur la 2. Et la nôtre, elle faisait 2 heures et...
Ouais.
C'était la foule.
Et puis, dans ce début des années 70, un certain VGE insuffle une certaine modernité. L'homme vous séduit. Catherine Ney, encore, elle évoque votre fascination pour Giscard.
Il a tellement été ébloui par la modernité qu'incarnait Giscard après Pompidou, après, c'est vrai, le quinquennat de Pompidou qui a été douloureux pour tout le monde. Sans la maladie, il aurait été sûrement un très très grand président. Moi, je l'avais énormément admiré comme Premier ministre, et je trouve que le général de Gaulle avait été très injuste avec lui. Enfin bon, mais c'est vrai que cette fin de quinquennat était lugubre. Donc on voyait ce grand jeune homme comme ça, qui faisait du sport, qui courait sur les terrains de football. Enfin moi, je le trouvais ridicule. Et d'ailleurs, les images ont mal vieilli. Mais bon, et donc, quand je voyais Alain, on se chamaillait un peu comme ça, parce que je me moquais de Giscard, et lui, il l'acceptait tout à fait. Mais vous voyez, on n'était pas d'accord du tout. Moi, et lui, il n'aimait pas du tout Chirac, parce qu'il le trouvait... pas assez cultivé, trop, voilà, trop agité. Et donc, voilà, il y avait des petites...
Et vous étiez plus chiracienne.
J'étais plus chiracienne. Je trouvais que Giscard m'agaçait par tous ses gadgets, vous voyez. Et puis il avait cette façon de parler avec une pomme chaude dans la bouche. Alors que maintenant, je me dis, il a été quand même très réformateur. Il a fait des choses. Mais c'était le style, c'était ce naturel guindé, ce côté snob qu'il avait qui, moi, m'exaspérait.
Qu'est-ce qui vous fascine chez Giscard, alors, Alain ?
Bon, alors, Giscard, d'abord, c'est la rupture avec le gaullisme. Bon, ensuite, c'est la modernisation de la vie politique. Les deux premières années de Giscard sont les deux
On va s'attacher aux réformes dans un
d'accord.
La personnalité, sur ce qui...
Oui, dans mon esprit, les réformes et la personnalité de Giscard, ça va ensemble. Il me séduit parce qu'il réforme, et il réforme d'une manière qui me séduit.
Sur l'accordéon, bon, le côté la
non,
com.
Non, pas du tout. Non, la com, alors, c'est pas du tout ça. Sauf que j'ai trouvé que sa campagne était... présidentielle incroyablement novatrice dans la forme. Bon, ça m'a intéressé. Ensuite, effectivement, ce que Catherine appelle les gadgets, ça ne m'intéressait pas du tout, ça. En revanche, les réformes qu'il menait, oui. Ouais. Puis les deux premières années sont les deux plus belles années politiques que j'ai vécues. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais changé la société française aussi rapidement et de façon en même temps aussi ordonné.
Mais avant d'évoquer
le bonhomme,
quand il arrive au pouvoir, vous vous dites, tiens, on a quelqu'un là qui va donner un grand coup de pied dans la fourmilière.
Non, d'ailleurs, pour tout vous dire, j'avais voté Mitterrand, moi.
Ah oui.
Bon, donc, vous voyez, c'était pas du tout idéologique.
Alain, vous nous dites là que vous avez voté Mitterrand en 1974. Vous, considéré comme le journaliste le plus giscardien de l'histoire de la Ve République, vous avez voté Mitterrand.
Il n'y a pas eu de classement, non, des journalistes. Et d'ailleurs, c'est inexact. Oui, j'ai voté Mitterrand en 1974. D'abord parce qu'il se trouve que je le connaissais très bien. On avait fait un livre ensemble. Et je trouvais qu'on n'avait jamais connu que l'expérience gaulliste depuis 1958, donc j'avais envie d'autre chose. Et puis, pour vous dire, ça m'est arrivé une autre fois aussi de voter à la présidentielle à gauche.
Et c'était qui cette fois ?
C'était quelqu'un d'autre. Et ça n'aurait pas... Je n'ai pas voté pour lui, pour François Mitterrand en 81. Mais de toute façon, moi j'ai un critère extrêmement simple qui n'est pas du tout idéologique, c'est... quel est celui des candidats qui me paraît le mieux à un moment donné, et je vote pour lui, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre. Du centre, ça est arrivé moins souvent par la force des choses.
Est-ce que c'est aussi l'homme Mitterrand que vous connaissiez bien ? On l'a dit, on en a raconté.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est lui qui, personnellement aussi, vous a convaincu à l'époque.
Disons que j'ai plus voté pour François Mitterrand que pour le socialiste.
Et puis voilà, mais pour moi, Giscard, c'est le bonhomme, bien sûr, comme toujours. Mais c'est d'abord les réformes qu'il avait fait, qu'il avait annoncées, qu'il a fait. Et vous rendez compte qu'il les a faites, toutes ces réformes annoncées, en 2 ans. Mmh. En général, on met 20 ans pour les faire. Mais en revanche, d'abord, j'ai vu qu'il a vraiment réformé. Et moi, je suis réformateur. Ça correspondait à ce que je voulais. En plus, les réformes qu'il voulait faire, c'était celles qui m'intéressaient le plus. Donc il était visiblement très intelligent. Il voyait surtout, il y a très peu de présidents qui étaient comme ça, y compris ses prédécesseurs ou peut-être successeurs. Il voyait très loin, c'est-à-dire qu'il n'avait pas des projets pour l'année et il raisonnait aussi à 10 ans.
Est-ce qu'il y a...
En fait, les deux réformateurs, ça a été Giscard, 74-76, et Mitterrand, 81-83.
Oui, pour tout détricoter.
L'ennui, c'est que c'était des réformes en sens exactement opposé.
Ouais. Est-ce que vous diriez, Alain, qu'il y a du Giscard chez Macron ?
Il y a une part de Giscard, dans la mesure où, notamment en matière internationale et particulièrement européenne, il essaye de voir loin. Bon, chez Giscard, c'était une des choses aussi qui me plaisait. Moi, j'ai toujours été foncièrement européen. Mmh. Et lui, c'était le plus grand européen chez les Français. Depuis Jean Monnet. Mais enfin, Jean Monnet n'était pas un élu.
Et puis, ils accèdent tous deux très jeunes au pouvoir, 48 ans, je crois.
Oui, et puis ils ont la même formation.
La même ambition.
La même formation d'abord, la même ambition. Ils veulent être plus qu'un président français. Ils veulent être un leader en Europe, tous les deux. Et tous les deux arrivent avec un paquet de réformes sous le bras. Alors, il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. Il y en a qui se font... Giscard est arrivé à faire, en 2 ans, nettement plus de réformes que Macron dans ses 2 premières années. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il ressemble à Giscard, mais il n'est pas Giscard.
On y viendra, Emmanuel Macron, un peu plus tard. Alain face à Duhamel, c'est donc la fin de ce premier épisode. Le deuxième débutera par le débat Giscard-Mitterrand en 1974. Et bien sûr, vous étiez là, aux premières loges, grand témoin de cette petite phrase de Giscard, « Vous n'avez pas le monopole du cœur », phrase qui pèsera d'un certain poids dans cette élection. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Rendez-vous au deuxième épisode. Merci Alain.
Merci.